Chapitre 4, dans lequel un homme de guerre met définitivement un terme aux hostilités et fait conclure une paix solide et durable entre toutes les parties. Un sergent et un peloton de fusiliers, chargés de la conduite d'un déserteur, arrivèrent un moment après. Le sergent demanda aussitôt la demeure du premier magistrat de la ville et apprit de l'hôte que c'était lui-même qui était revêtu de cette dignité. Il lui demanda alors ses billets de logement avec un pot de bière, et, se plaignant qu'il faisait froid, alla s'asseoir devant le feu de la cuisine. Jones était alors occupé à consoler sa pauvre malheureuse dame, qui était assise auprès d'une table dans un coin, et la tête appuyée sur son bras, déplorait ses infortunes. Mais de peur que ma belle lectrice ne soit blessée d'une certaine petite circonstance, je crois à propos de les prévenir ici, qu'avant de quitter la chambre qu'elle occupait en haut, elle s'était si bien couverte avec une taie d'oreiller qu'elle y avait trouvée, que la décence pour laquelle elle avait un si profond respect n'était pas le moins du monde blessée par la présence de tant d'hommes qui étaient alors dans la cuisine. Un des soldats s'approcha en ce moment du sergent et lui dit quelque chose à l'oreille qui lui fit jeter les yeux sur la dame. Après l'avoir fixée attentivement pendant près d'une minute, il alla vers elle et lui dit « Je vous demande pardon, madame, mais je suis sûr de ne pas me tromper. Vous êtes très certainement la femme du capitaine Waters. » La pauvre dame, qui dans sa détresse actuelle n'avait osé regarder personne en face, n'eut pas plutôt aperçu le sergent qu'elle se le rappela. Et l'appelant par son nom, lui répondit qu'elle était en effet la malheureuse qu'il imaginait qu'elle fût. Mais ajouta « Je m'étonne que quiconque me reconnaisse sous ce déguisement. » Ce à quoi le sergent répliqua qu'il était très surpris de voir madame ainsi habillée, et craignait qu'il ne lui fût arrivé quelque accident. « Il m'est en effet arrivé un accident, dit-elle, et je sais infiniment gré à ce gentilhomme, désignant Jones, d'avoir évité qu'il fût fatal, et d'être maintenant en vie pour le dire. « Quoi qu'ait fait le gentilhomme, s'écria le sergent, je suis sûr que le capitaine saura l'en dédommager. Et si je puis rendre quelque service, que madame me le commande, et je m'estimerai très heureux d'être en mesure de servir madame. Et je ne suis pas le seul en ce cas, car je sais que le capitaine nous récompensera tous. » L'hôtesse, qui avait entendu de l'escalier toutes les paroles échangées entre le sergent et Mrs. Waters, descendit en hâte, et allant droit vers elle, commença à lui demander pardon pour les offenses qu'elle avait commises, suppliant que toutes pussent être imputées à l'ignorance de sa qualité. « Car, Seigneur, madame, dit-elle, comment eussé-je pu imaginer qu'une femme de votre monde apparaîtrait en pareil accoutrement ? Je suis sûr, madame, que si j'avais eu le moindre soupçon que madame était madame, j'aurais plutôt brûlé ma langue que d'avoir dit ce que j'ai dit. Et j'espère que madame acceptera une robe en attendant de se procurer ses propres habits. « De grâce, femme, dit Mrs. Waters, cesse ton impertinence. » Comment peux-tu imaginer que je me préoccupe des paroles sorties de la bouche d'aussi basse créature que toi? Mais je suis surprise de ton assurance à penser, après ce qui vient d'arriver, que je condescendrai à revêtir la moindre de tes guenilles. Apprends, vile créature, que je suis trop fière pour cela. Jones crut que son entremise était ici nécessaire et pria Mrs. Waters de pardonner à l'hôtesse et d'accepter sa robe. « Car je dois avouer, dit-il, qu'à notre arrivée ici, notre extérieur était un peu suspect, et je suis bien persuadé que tout ce que cette bonne femme a fait n'avait, comme elle l'a déclaré, d'autre objet que de conserver la bonne réputation dont sa maison a toujours joui. » « Oui, sur ma foi, c'était pour cela, dit l'hôtesse. Ce gentilhomme parle bien comme un gentilhomme, et je vois bien clairement qu'il en est un. Et sûrement la maison est bien connue pour être une maison aussi bien famée qu'aucune autre sur la route. Et quoiqu'il ne me convienne pas de le dire, elle est fréquentée par les gens de la première qualité, tant irlandais qu'anglais. Je défie qui que ce soit d'en dire le moindre mal à cet égard. Et comme je le disais, si j'avais su que madame était madame, j'aurais autant aimé me brûler les doigts que de faire le plus léger affront à madame. Mais vraiment, dans une maison où la noblesse vient loger et dépenser son argent, je ne voudrais pas la scandaliser en l'associant avec une vile canaille qui, partout où on la reçoit, laisse après elle plus de vermine que d'argent. Ces sortes de gens-là ne m'inspirent aucune pitié, car sûrement ce serait une folie d'en avoir pour eux. Et si nos juges de paix faisaient leur devoir, on les chasserait tous du royaume à coups de fouet, car sûrement c'est ce qui leur conviendrait le mieux. Mais quant à madame, je suis sincèrement fâché qu'il soit arrivé un malheur à madame. Et si madame veut me faire l'honneur de porter mes robes, jusqu'à ce que madame ait pu se procurer les siennes, sûrement la plus belle que je puisse avoir est au service de madame. Je ne saurais déterminer si ce fut le froid ou la pudeur, ou les instances de M. Jones qui persuadèrent Mrs. Waters. Mais elle se laissa apaiser par le discours de l'hôtesse et se retira avec cette bonne femme pour s'habiller d'une manière décente. L'hôte avait déjà commencé un petit discours qu'il adressait à Jones quand il fut interrompu sur le champ par ce généreux jeune homme qui lui serra cordialement la main et l'assura d'un pardon absolu en lui disant « Si vous êtes content, mon bon ami, je vous promets que je le suis. » Et il faut convenir que l'hôte avait en un sens plus de raison que Jones d'être content, car il avait reçu une multitude innombrable de coups et était à peine parvenu à toucher Jones une seule fois. Partridge, qui avait été occupé pendant tout ce temps à laver à la pompe le sang qui ruisselait de son nez, rentra dans la cuisine au moment où son maître et l'hôte se serraient mutuellement la main. Comme il avait une disposition naturelle à la paix, il fut charmé de cette apparence de réconciliation. Et quoique son visage portât quelques marques du poing de Suzanne, et beaucoup plus encore de ses ongles, il aima mieux s'en tenir à ce qu'il avait gagné dans la dernière bataille que d'en hasarder ambitieusement une nouvelle. L'héroïne Suzanne fut également satisfaite de sa victoire, quoiqu'elle lui coûtât un œil poché de la façon de Partridge. Il fut donc conclu un traité entre deux, et ces mêmes mains qui avaient été des instruments de guerre devinrent alors les médiatrices de la paix. Tout se trouva par ce moyen rétabli dans un calme parfait, auquel le sergent, quoique cela puisse paraître contraire aux principes de sa profession, donna son approbation en ces termes. « Fort bien, voilà agir en ami, cela. Dieu me donne, je hais à la mort de voir deux personnes s'en vouloir l'une à l'autre, après avoir eu ensemble une petite discussion. » Le seul moyen quand les amis ont une querelle est de la leur laisser vider amicalement, comme qui dirait avec le poing, l'épée ou le pistolet, à leur goût, et que tout soit fini. Quant à moi, Dieu me donne, si j'aime jamais mieux mon ami que lorsque je me bats avec lui. Garder rancune est une manière française qui ne convient point à des Anglais. Il proposa alors une libation comme faisant nécessairement partie de la cérémonie dans tous les traités de cette nature. Le lecteur en conclura peut-être qu'il était très versé dans l'histoire ancienne. Mais quoique cela soit fort probable, comme il ne cita aucune autorité qui appuyât cette coutume, je ne puis l'affirmer avec quelque certitude. Ce qu'il y a de plus probable, c'est qu'il fondait tacitement son opinion sur quelque autorité respectable, car il la confirma par une foule de jurements énergiques. Jones n'eut pas plutôt entendu la proposition que, d'accord avec le docteur sergent, il fit apporter sur le champ une coupe, ou plutôt un grand pot rempli de la liqueur dont on use dans ces sortes d'occasions, et commença lui-même la cérémonie. Il mit sa main droite dans celle de l'hôte, et prenant la coupe de la main gauche, prononça les paroles d'usage et fit sa libation. La même cérémonie fut observée par tous ceux qui étaient présents. Il me paraît bien peu nécessaire d'entrer à cet égard dans de plus grands détails. Il suffit de dire que cette libation différa fort peu de celle dont les anciens auteurs et leurs modernes traducteurs ont tant parlé. La différence la plus remarquable consista en deux points. Le premier en ce que les contractants ici présents ne versèrent la liqueur que dans leur gosier. Et le second en ce que le sergent, qui officiait en qualité de grand prêtre, but le dernier. Mais il conserva, je crois, l'ancienne forme, en buvant beaucoup plus que les autres, et en étant la seule personne qui ne contribua d'ailleurs en rien à la libation qu'en rendant aux autres le service d'y remplir le principal rôle. Tout le monde se rangea ensuite autour du feu de la cuisine, où la bonne humeur prit et conserva un empire absolu. Partridge oublia non seulement sa honteuse défaite, mais convertit sa faim en soif et devint bientôt extrêmement facétieux. Il nous faut cependant quitter un moment cette agréable assemblée pour accompagner M. Jones dans l'appartement de Mrs. Waters, où le dîner qu'il venait de commander était sur la table. Il faut convenir qu'il n'avait pas fallu beaucoup de temps pour le préparer. Étant tout fait depuis 3 jours, et n'ayant exigé du cuisinier d'autres soins que celui de le réchauffer. Chapitre 5. Apologie pour tous les héros qui ont bon appétit, avec la description d'une bataille dans le genre amoureux. Les héros, en dépit de la grande idée que, grâce aux flatteurs, ils se font d'eux-mêmes, ou que le monde peut en concevoir, ont certainement dans leur constitution plus d'éléments mortels que de divins. Quelque sublimes que leurs esprits puissent être, on ne peut nier que leur corps, qui dans le plus grand nombre est la partie d'eux-mêmes qui l'emporte de beaucoup sur l'autre, ne soit sujet aux infirmités les plus honteuses et aux plus vils besoins de la nature humaine. Parmi ces derniers, celui de manger, que quelques personnes sages ont considéré comme extrêmement bas et dérogatoire à la dignité philosophique, doit être jusqu'à un certain point satisfait par le plus grand prince, le plus grand héros et le plus grand philosophe de la terre. Quelquefois même la nature s'est montrée assez fantasque pour exiger beaucoup plus à cet égard de ces honorables personnages que des hommes de la dernière classe. À dire vrai, comme aucun habitant connu de ce globe n'est réellement au-dessus de l'homme, aucun ne doit être honteux de se soumettre à ce qui est pour l'homme une loi de la nécessité. Mais quand ces grands personnages dont je viens de parler daignent descendre jusqu'à vouloir réserver pour eux seuls le droit de satisfaire ces besoins grossiers, comme lorsque par leur manie d'entasser des trésors ou de faire la guerre, ils semblent vouloir empêcher les autres de manger, ils deviennent sûrement alors très vils et très méprisables. Après cette courte préface, nous ne croyons pas avilir notre héros en faisant ici mention de l'ardeur immodérée avec laquelle il se comporta dans cette occasion. On pourrait mettre en doute si Ulysse, qui, soit dit en passant, paraît avoir eu le meilleur appétit de tous les héros de l'Odyssée, ce poème où d'ailleurs l'on mange si bien, fit jamais un meilleur repas. 3 livres au moins de bœuf rôti eurent ce jour-là l'honneur de devenir une partie de l'individu de M. Jones. Nous nous sommes crus obligés de faire mention de cette particularité qui peut servir à justifier notre héros d'avoir négligé pendant cet intervalle sa belle compagne qui mangea très peu et était, il faut le dire, occupée d'idées d'une nature très différente, auxquelles Jones ne fit un peu d'attention que lorsqu'il eut entièrement satisfait ce grand appétit qu'un jeûne de 24 heures lui avait procuré. Mais il n'eut pas plutôt fini de dîner que son attention se reporta sur d'autres objets dont nous allons entretenir le lecteur sans différer. Monsieur Jones, des perfections duquel nous n'avons dit jusqu'ici que fort peu de choses, était dans le fait un des plus jolis garçons du monde. Outre que son visage était le tableau vivant de la santé, la douceur et la bonté s'y montraient de la manière la plus remarquable. Ses qualités y étaient empreintes avec un caractère si prononcé que, quoique l'esprit et la sensibilité qui brillaient dans ses yeux pussent échapper à toute force vulgaire, cette douceur et cette bonté surtout étaient si vivement peintes dans ses regards qu'elles étaient remarquées de tous ceux qui le voyaient. Son visage devait peut-être autant à ces 2 qualités qu'à la beauté de son teint, la délicatesse presque inexprimable qui le distinguait, et aurait pu lui donner un air un peu trop efféminé si elle n'eût été jointe à quelque chose de plus mâle dans le reste de sa personne, qui tenait autant d'Hercule que son visage tenait d'Adonis. Il était d'ailleurs vif, agréable, d'un caractère enjoué et d'une vivacité charmante dans l'esprit qui animait la conversation partout où il était. Quand le lecteur aura dûment réfléchi sur tant de charmes rassemblés dans notre héros et considéré en même temps les obligations récentes que lui avait Mrs. Waters, il sera convaincu qu'il y aurait plus de pruderie que de candeur à concevoir une mauvaise opinion d'elle parce qu'elle conçut une fort bonne opinion de lui. Mais quelque espèce de censure qu'elle puisse encourir, mon devoir est de rapporter les faits avec la plus scrupuleuse véracité. Mrs. Waters avait dans la vérité non seulement une bonne opinion de notre héros, mais encore une très vive affection pour lui. Pour trancher le mot, elle aimait, suivant l'acception la plus générale de ce mot, qu'on applique indistinctement à tous les objets de nos désirs, de nos passions et de nos appétits sensuels, et qui n'exprime alors que la préférence que nous donnons à une chose sur une autre. Mais quoique dans tous les cas l'amour que nous inspirent ces différents objets puisse être jusqu'à un certain point le même, il faut convenir que ces effets en sont très différents. Car quelque amour que nous puissions avoir pour un excellent roast-beef, une bonne bouteille de vin de Bourgogne, une rose du plus bel incarnat, un violon de Crémone, etc. Cependant, nous n'employons ni sourire, ni œillade, ni toilette élégante, ni flatterie, ni ruse, ni perfidie, pour parvenir à gagner l'affection du dit roast-beef, etc. Nous pouvons, il est vrai, soupirer quelquefois, mais c'est le plus communément en l'absence et non en la présence de l'objet aimé. Autrement, nous pourrions nous plaindre de le trouver aussi ingrat et aussi sourd que le taureau de Pasiphaé. Le contraire a lieu dans cet amour qui se fait sentir entre des êtres de la même espèce, mais de sexe différent. Dans ce cas, le soin d'engager l'affection de l'objet aimé devient le premier de nos soins. Et en effet, pour quel autre dessein instruit-on la jeunesse dans tous les arts propres à la rendre agréable, si ce n'était dans la vue de la rendre propre à inspirer de l'amour? Autrement, je demande si aucun de ces commerces qui ont pour objet la parure et l'enjolivement du cœur humain pourrait procurer de quoi vivre, et comment ces grands polisseurs de nos manières, qui, suivant l'opinion de quelques personnes, enseignent ce qui nous distingue principalement des brutes, les maîtres à danser eux-mêmes, pourraient trouver place dans la société. En un mot, toutes ces grâces que les jeunes demoiselles et les jeunes messieurs reçoivent des autres, cette foule d'agréments que par le secours d'un miroir ils ajoutent eux-mêmes à ceux que leur a donné la nature, sont en réalité ces mêmes spicula ac faces amoris, les flèches et les flambeaux de l'amour, dont Ovid fait si souvent mention et qu'on nomme quelquefois dans notre langue l'artillerie complète de l'amour. Mrs. Waters et notre héros ne furent pas plutôt assis à côté l'un de l'autre que la première commença à faire jouer cette artillerie sur le dernier. Mais comme nous sommes sur le point d'entreprendre une description qui n'a encore été tentée jusqu'ici ni en prose ni en vers, nous trouvons à propos d'invoquer l'assistance de certains êtres aériens qui, nous n'en doutons pas, viendront obligeamment à notre aide en cette occasion. Dites donc, ô vous, grâce qui habitez les demeures célestes, que vous offre toute la personne de Séraphina, car vous êtes véritablement divine, et demeurant sans cesse en sa présence, vous avez appris d'elle l'art de plaire. Dites quelles furent les armes qui furent alors employées pour captiver le cœur de M. Jones. D'abord, de deux beaux yeux bleus, dont les orbites brillants lançaient un feu semblable à celui de l'éclair, il se fit une décharge de deux œillades pointées sur M. Jones. Mais heureusement pour notre héros, elles ne frappèrent qu'un morceau de roast beef qu'ils tiraient alors du plat pour le déposer sur son assiette, et perdirent ainsi toute leur force sans avoir fait le moindre mal. La belle guerrière s'aperçut de leur mauvais succès et laissa aussitôt échapper de son beau sein un soupir fait pour porter la mort, un soupir que personne n'aurait pu entendre sans émotion et qui aurait suffi pour renverser devant lui d'un seul souffle une douzaine de petits maîtres. Un soupir si doux, si tendre, si amoureux, si subtil, si insinuant, qu'il eût trouvé infailliblement le chemin du cœur de notre héros, s'il n'eût été heureusement écarté de ses oreilles par le bouillonnement grossier de la petite bière qu'il versait de la bouteille dans son verre en ce moment. Elle essaya encore beaucoup d'autres armes, mais le dieu de la table, si toutefois il existe une semblable divinité, ce que je me garde bien d'oser affirmer, préserva celui qui sacrifiait sur son autel, ou peut-être cela n'était-il pas un nœud digne d'être délié ainsi. Et ne faut-il expliquer la sécurité de Jones que par des moyens naturels? Car comme il est démontré que l'amour nous préserve quelquefois des attaques de la faim, il est possible que dans certains cas, la faim nous préserve des attaques de l'amour. Notre belle, furieuse d'avoir manqué si souvent son coup, se détermina à une courte suspension d'armes. Elle employa cet intervalle à mettre en état tous ses instruments de guerre pour renouveler l'attaque dès que le dîner serait fini. Elle attendit à peine que le couvert fût ôté pour se remettre sous les armes. D'abord, après avoir pointé obliquement ses beaux yeux contre M. Jones, elle lui lança du coin de l'œil droit le regard le plus pénétrant, qui, quoiqu'il eût perdu une partie de sa force avant d'atteindre notre héros, ne fut pourtant pas absolument sans effet. La belle, s'en étant aperçue, se hâta de détourner les yeux et les baissa comme si elle eût été honteuse de ce qu'elle avait fait. Quoique par cette ruse elle n'eût d'autre dessein que de l'empêcher de se mettre sur ses gardes et de l'obliger de jeter les yeux sur elle, car c'était là la route qu'elle comptait prendre pour s'emparer de son cœur. Puis, relevant avec langueur ces deux orbes brillants qui avaient déjà commencé à faire impression sur le pauvre Jones, elle lâcha tout d'un coup sur lui une volée de petits amours rassemblés de toutes les parties de son visage dans un seul sourire. Ce n'était point un sourire de gaieté, mais ce sourire d'affection que la plupart des dames ont toujours à leurs ordres et qui leur sert à montrer tout à la fois leur bonne humeur, leurs jolies fossettes et leurs dents blanches. Notre héros reçut ce sourire dans les yeux sans en avoir perdu la moindre grâce et faillit en être renversé. Il commença alors à apercevoir les projets de l'ennemi et ne se dissimula pas ses succès. Il s'établit alors entre les deux parties un pourparler, pendant lequel la belle et artificieuse guerrière poussa si finement, si imperceptiblement son attaque, qu'elle avait presque réduit notre héros à lui rendre les armes avant de recommencer les actes d'hostilité. S'il faut dire la vérité, je crains bien que M. Jones ne se soit défendu en quelque sorte à la hollandaise, et n'ait traîtreusement livré la garnison sans avoir eu suffisamment égard à la fidélité qu'il devait à la belle Sophie. En un mot, le pourparler amoureux ne fut pas plutôt fini, et la dame n'eut pas plutôt démasqué la grande batterie en laissant négligemment tomber le châle qui couvrait son sein que le cœur de M. Jones fut absolument pris, et que la belle conquérante recueillit les fruits de sa victoire. Les grâces jugent convenable de terminer ici leur description et nous le chapitre.